franceinter.fr.
Attraper un rhume lorsqu'on est un chimpanzé s'avère bien plus grave que lorsqu'on est un homme. Depuis 2013, les chimpanzés du parc national de Kibale en Ouganda toussent et éternuent de plus en plus. L'autopsie d'une femelle, Betty, décédée en 2013, révèle que les singes seraient infectés par le rhinovirus C, un virus normalement réservé aux hommes. On discute de cette transmission tout à fait inhabituelle avec notre invité, Axel Villard.
Oui Mathieu, on est avec la primatologue Sabrina Krief. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous connaissez bien ces chimpanzés de Kibale, puisque vous avez travaillé avec eux jusqu'en 2010. C'est la première fois que des cas de rhume sont documentés chez ces chimpanzés?
Non, c'est pas la première fois. En fait, la mortalité chez les chimpanzés est très souvent attribuée à des infections respiratoires. Et dans cette communauté en particulier, que j'ai suivie donc pendant plus de 10 ans, les rhumes étaient très fréquents.
Et quels sont les symptômes du rhume chez le chimpanzé?
Alors, des éternuements, de la toux. Et ce qui est très particulier chez les chimpanzés qu'on suit, en particulier à Kanyawara, c'est cette infection respiratoire profonde qui fait qu'on voit vraiment des difficultés respiratoires, un peu comme un asthmatique qui aurait ses bronches complètement encombrées. Donc, ça vient vraiment des poumons, c'est pas uniquement des éternuements.
Est-ce que la source de la contamination, c'est l'homme là-bas pour ces chimpanzés à Kibale?
Alors, le travail de Tony Goldberg et de son équipe montre que la cause peut être identifiée et c'est la première fois en fait qu'on met en évidence ce rhinovirus, le rhinovirus C, qui est donc a priori responsable de cette épidémie qui a surgi en 2013 et qui a tué 5 chimpanzés.
Parce que le rhinovirus C, chez l'homme, c'est un simple rhume, mais ça passe très vite?
Chez les enfants, ça peut être vraiment grave, surtout quand ça se complique avec de l'asthme. Chez les adultes, ça peut être asymptomatique. Chez les chimpanzés, a priori, la grosse différence, c'est qu'ils ont un allèle, un gène particulier qui les rend sensibles à ce rhinovirus C, que les humains n'ont pas tous. En fait, certains ont une sorte de résistance à ce rhinovirus et donc peuvent survivre à ce qui peut tuer le chimpanzé.
Est-ce que ça fait longtemps qu'on a cette suspicion justement d'une transmission d'homme à chimpanzé sur le rhume?
Oui, sur cette communauté, en fait, ça fait longtemps qu'on suspecte cette transmission. Moi-même, en fait, j'avais fait l'autopsie d'une femelle morte de maladie respiratoire qui s'appelait Nile. C'était une mère d'une trentaine d'années et elle avait ces mêmes symptômes. Pour notre part, on n'avait pas trouvé mis en évidence de virus particulier. Par contre, on avait mis en évidence une surinfection bactérienne à Klebsiella. Donc, une bactérie, en fait, qui s'est révélée être résistante à tous les antibiotiques qu'on a testés. Donc, il laisse aussi penser que cette bactérie était d'origine humaine. Puisque, a priori, les chimpanzés ne se traitent pas avec des antibiotiques qu'on a à disposition.
Est-ce que ce virus est naturellement présent dans l'environnement du chimpanzé si on enlève l'homme?
Non, théoriquement, ça semble être vraiment la cause principale, la présence et la proximité de l'homme, même si on sait que les rhinovirus existent chez d'autres espèces de primates. Mais celui-là en particulier, à cause de son séquençage, a révélé être vraiment très similaire à celui de l'homme, voire quasi identique. Donc là, ce cas d'étude en particulier montre que l'origine est très probablement l'homme, avec donc ce problème que l'homme peut être porteur sain. Et l'autre problème est que aussi ces virus sont très résistants, ils peuvent résister à la dessiccation. Donc simplement, si on éternue ou on crache à un endroit et que le chimpanzé y passe ou consomme un fruit qui pouvait être là, il peut se contaminer de cette façon-là.
Ça veut dire des précautions particulières pour vous, chercheurs sur le terrain?
Alors, ça remet en cause pas mal des préconisations qu'on a habituellement, qui sont de porter des masques, surtout dans les périodes d'épidémie respiratoire dans les villages ou bien chez nos assistants de recherche ou nous-mêmes. Là, en fait, ça laisse à penser qu'il faudrait porter un masque tout le temps. C'est ce que font déjà certaines équipes de recherche.
Et pourtant, Sabrina Krief, quand vous êtes sur le terrain en Ouganda avec les chimpanzés, vous gardez toujours une distance avec les animaux parce que justement, vous faites des recherches qui sont non-invasifs par rapport à l'animal.
Exactement, donc on garde 8 à 10 mètres de distance avec les chimpanzés, justement pour éviter ces risques de contamination croisée, hein, parce qu'on sait aussi que les chimpanzés peuvent également nous contaminer. Mmh. Et l'objectif est vraiment de réduire le risque au maximum. Donc quand l'habituation, c'est-à-dire la proximité avec les chimpanzés, est encore peu importante, donc on est à 20 ou 30 mètres, évidemment les risques sont moins importants. Mais petit à petit, comme c'est le cas à Kanyawara, on arrive à ce que les chimpanzés aient confiance en nous, et parfois il leur arrive, eux, de venir très proche de nous, parfois de nous frôler. Et donc là, les risques sont vraiment importants.
Est-ce qu'il y a des risques que ce virus mette en péril les populations de chimpanzés de Kibale?
Oui, bien sûr. En fait, nous, on a eu, donc, dans la communauté de chimpanzés où je travaille aujourd'hui, donc à Sebitoli, qui est celle qui est vraiment voisine de celle de Kanyawara, un épisode de toux qui a entraîné aussi de la mortalité un an avant. Donc, il est très probable que ça puisse se propager au sein des chimpanzés entre communautés, puisqu'il y a des femelles qui migrent d'une communauté à l'autre. Et que, et bien évidemment, que ce soit les chercheurs, mais aussi les chimpanzés, qui parfois vont piller les champs des villageois, favorisent cette transmission. En fait, ce qui semble de plus en plus probable, c'est que cette proximité qui s'accroît avec la déforestation, la fragmentation de l'habitat, est une des causes de transmission de plus en plus fréquente des pathogènes d'origine humaine.
Votre collègue Tony Goldberg, dans une vidéo sur YouTube, abordait la possibilité d'une vaccination des chimpanzés, parce qu'il y a des chercheurs chinois qui ont trouvé un virus efficace contre le rhume. C'est une possibilité pour vous de vacciner des populations sauvages comme ça?
Alors oui, effectivement, une équipe a montré qu'il semblait y avoir des bonnes pistes pour une vaccination contre le rhinovirus chez des macaques. Nous, aujourd'hui, on n'envisage pas la vaccination des populations sauvages, simplement pour la seule raison qu'on pense qu'ils sont capables aussi de développer une immunité qui leur permette de résister à cela, et que ces vaccinations sont relativement invasives. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est envisagé, même autour de la question d'Ebola. Donc, bon, c'est en discussion. Certaines équipes sont pour, d'autres contre. En fait, on n'a pas encore vraiment statué. Là, on avait une mortalité d'environ 8%, puisqu'il y a 5 chimpanzés sur 56 qui sont morts. Mais évidemment, si on voyait une épidémie encore plus grave toucher les chimpanzés, peut-être qu'on essaierait d'y réfléchir.
Quelles sont les autres pathologies chez le chimpanzé, Sabrine Ekrieff, que vous avez étudié vous-même d'ailleurs?
Alors, en fait, ce qui les touche aussi beaucoup, ce sont tout ce qui sont infections digestives, donc des diarrhées, des pathogènes qui touchent donc le système digestif. Après, comme on le disait tout à l'heure, c'est généralement des manifestations qu'on l'on voit, mais moi de mon côté j'ai travaillé sur le paludisme. Mmh. Et on a pu montrer, découvrir même deux espèces de plasmodium nouvelles qui peuvent toucher les chimpanzés, qui sont très proches de celles de l'homme aussi. Et puis en termes d'autres maladies, en fait, d'autres pathologies, on a montré récemment que les chimpanzés souffraient de malformations congénitales avec des malformations de type bec de lièvre, narines atrophiées. Donc ça, ce sont aussi des choses nouvelles, puisque c'est le seul endroit au monde pour le moment, à Sebitoli, où on a montré ce type de pathologie.
En lien avec les pesticides, hein. Vous avez fait un travail là-dessus. Hein.
En tout cas, on a montré qu'il y avait dans cette zone une exposition très forte à certains pesticides, néonicotinoïdes, glyphosate, etc. Par contre, la relation de cause à effet n'a pas encore été montrée. Malgré tout, ces deux faits semblent montrer vraiment qu'il y a de fortes présomptions pour que les pesticides soient la raison de ces malformations.
Et vous le dites, le rhume, les pesticides, c'est pas la seule menace qui pèse sur ces chimpanzés en Ouganda. Peut-être que ça va être la goutte de trop, ce rhume?
Oui, en plus de tout ce qui est perturbation de l'habitat, il y a évidemment le braconnage aussi, et donc certaines populations sont d'autant plus sensibles à ces agressions venant de l'extérieur. On peut très bien comprendre que si un chimpanzé porte un piège pendant un an et a donc en plus une infection au niveau d'un membre, le rhume qui pourrait être bénin chez un autre individu, celui-là va le toucher tout particulièrement.
Vous étiez en Ouganda récemment, Sabrina Krieff?
Je rentre d'Ouganda il y a une quinzaine de jours et j'y repars dans 15 jours.
Il y a combien de chimpanzés là, sur le centre exactement?
Alors, dans le parc de Kibale, il y a entre 1000 et 1500 chimpanzés. La station où on travaille est au cœur d'une communauté qui en compte une centaine et donc voisine de celle de Kanyawara qui en compte environ 50.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir commenté cette étude donc, sur le rhume de l'homme transmis aux chimpanzés. Merci Sabrina Krieff et Axel, à demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le chacal pourrait faire son apparition en France. C'est ce qu'indique un cliché pris par un piège photo en Haute-Savoie, pourtant habitué à vivre en Italie et en Suisse. Les spécialistes précisent que son arrivée était inéluctable, son comportement migratoire le poussant à se déplacer. Se nourrissant de plus petits animaux que son cousin, le loup, le chacal risque néanmoins d'être victime de la même réputation. Revenu naturellement en France via l'Italie en 1992, il sera en effet responsable de la mort de 10 000 brebis l'an dernier. Afin d'éviter des incidents, les associations qui défendent cet animal affirment qu'il est nécessaire de reconnaître juridiquement l'arrivée du chacal en France afin de le protéger. Le son le plus intense produit par un poisson, on le doit aux ébats assourdissants de Cynocyon orthonopterum, un poisson de la famille des cyanidés. Il a donc la particularité d'émettre un son très intense en période de reproduction. À chaque printemps, des millions d'individus se retrouvent dans le golfe de Californie et forment des bancs pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. En étudiant son comportement, des chercheurs américains ont pu enregistrer le son émis par le groupe qui peut atteindre jusqu'à 150 décibels. C'est plus puissant qu'un avion au décollage. Ces poissons seraient même capables d'assourdir les phoques et les baleines. Et puis comme chaque année, la revue américaine Nature publie une sélection de photos qui ont attiré l'œil des éditeurs, de l'éclipse solaire totale aperçue aux États-Unis en août dernier jusqu'à l'extraordinaire grenouille de verre en gestation. Vous pouvez découvrir les meilleurs clichés de l'année sur la page Facebook de l'émission.